Alors bonjour, on va passer au temps de lecture biblique. Alors je vous invite à tourner avec moi dans Apocalypse 1 au chapitre 1 ce matin. Alors Apocalypse chapitre 1, oui, verset 1 dans la nouvelle édition de Genève. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Amen.
Je vous invite à prendre place. On va aller ensemble dans un mot de prière, si vous voulez bien, pour commencer cette nouvelle série dans l'Apocalypse. Père éternel, on veut prendre le temps de s'arrêter pour t'adorer, pour dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux. On vient de chanter ta gloire, ta majesté, la gloire du Fils de Dieu. Père, ce matin, on veut te demander de nous assister pendant ce temps où on penche les regards sur ta parole. On cherche à comprendre le message que tu as donné à ces chers frères à l'époque qui luttaient pour la foi, à une époque où le christianisme était tout sauf légal, tout sauf accepté, Seigneur. Et Seigneur Jésus, tu leur as fait connaître des choses pour les fortifier dans leur foi. Et nous savons, Seigneur, que ce message est encore d'actualité aujourd'hui. Seigneur Jésus, ce livre commence avec ce mot « révélation ». Viens, je te prie, te faire connaître à nous d'une manière particulière ce matin, Seigneur. Viens rencontrer ceux et celles qui sont avec nous et qui ont encore besoin simplement de saisir qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas de meilleur passage pour voir ta gloire, Jésus, ta majesté, ta puissance, ta grandeur. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen. Amen. Alors, tournez avec moi si vous n'êtes pas déjà dans l'Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1. On commence une nouvelle série. Je sais que c'était attendu. En fait, moi, j'ai attendu avant de faire cette série-là. Moi-même, très longtemps. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Quand on pense à l'Apocalypse, on a toutes sortes d'images qui viennent en tête. C'est probablement que c'est juste de dire que c'est le livre qui excite le plus l'imagination populaire dans la Bible, c'est vrai? Quand on pense à l'Apocalypse, on a des images assez sombres. J'ai fait une petite recherche, puis j'ai dit, OK, c'est quoi les premières images qui vont sortir si je cherche Apocalypse? Puis ça, c'est le genre d'images qui viennent immédiatement. Peut-être, mais ça ressemble pas vraiment à ça, le livre de l'Apocalypse. En tout cas, pas le premier chapitre, pas les derniers chapitres, et ça ressemble définitivement pas au message du livre de l'Apocalypse. Mais ça excite l'imagination. Le livre de l'Apocalypse, je vais dire ceci pour commencer, puis si vous retenez juste ça de toute la série, si vous retenez seulement ça, on est en affaire. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été donné pour exciter notre imagination, mais pour exciter notre foi. Retenez ça. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été donné aux chrétiens du premier siècle et de tous les siècles à venir, pour exciter notre imagination, mais pour exciter, pour fortifier notre foi. Amen? Et j'espère que l'amen va être de tout cœur à la fin, parce que vous êtes convaincus que le livre de l'Apocalypse a été donné pour fortifier notre foi, bien plus qu'exciter notre imagination. Pourquoi étudier le livre de l'Apocalypse aujourd'hui en 2018? C'est quoi la pertinence de ce livre-là? En quoi est-ce qu'il peut nous être utile? Premièrement, pour être encouragé, je viens de le dire. Et vous allez voir, je vais le développer un peu ce matin, je vais le développer la semaine prochaine, mais je vais le développer à travers tout le livre. Ce livre-là a été donné pour nous encourager. Donc, c'est le livre à lire quand tu es découragé. C'est peut-être pas le premier livre qui vous viendrait à l'esprit. Vous allez penser à un psaume, puis je vais aller dans la louange, puis je n'irai pas lire l'Apocalypse quand je suis découragé. Pourtant, c'est le livre à lire quand tu es découragé. Quand tu regardes le monde puis que tu es un petit peu anxieux, tu sais, on vit à l'époque de l'information. Les guerres diminuent puis on dirait qu'elles sont en train d'augmenter, c'est parce que tout est en gros plan, on est avec une loupe, tu sais. Il y a une personne qui meurt à quelque part sur la terre, tout le monde le sait en 15 secondes. Quand tu es anxieux puis tu regardes où s'en va le monde, tu veux te tourner vers l'Apocalypse. Pas pour exciter ton imagination. Pour être encouragé, pour exciter ta foi, pour fortifier ta foi. C'est le livre où tu veux aller quand tu as l'impression que ta foi s'est affaiblie, que ça manque de pep, que ça manque de vie, que tu as tendance comme à t'asseoir un peu sur ta foi. Tu veux aller vers l'Apocalypse pour être excité, fortifié dans ta foi, encouragé dans ta foi. Alors ce matin, puis la semaine prochaine, on est dans Apocalypse 1, premier chapitre. Ensuite, on va aller vers les lettres aux églises, puis je vais vous donner un plan simplement pour se retrouver dans ce livre-là. C'est un livre très intimidant. Moi-même, très intimidé par un livre comme celui-là, je comprends ça à 100%. En fait, ceux qui me font peur, c'est ceux qui sont jamais intimidés par l'Apocalypse. Ceux-là m'inquiètent toujours un petit peu, d'accord? Mais donc, j'admets que c'est un livre intimidant. C'est un livre intimidant. Et donc, dans quelques semaines, je vais vous présenter un plan qui va vous aider à vous y retrouver. Puis à voir un peu c'est quoi la structure de ce livre-là, ça va nous aider énormément. Mais ce matin, la semaine prochaine, on est dans Apocalypse 1. Et je veux juste dire ceci. On est nombreux Il y a des gens qui sont ici, qui sont en cheminement par rapport à la foi. Vous êtes ici parce que vous voulez entendre parler peut-être de l'Apocalypse, peut-être que vous espérez que je vais annoncer une date du retour de Jésus. Je vous le dis tout de suite, vous allez être vraiment déçus. Non, mais tu sais, vous êtes en cheminement. Tu es en train de cheminer par rapport à la foi, tu te poses des questions, est-ce que ça se tient? Puis j'ai entendu dire que les chrétiens lisaient un livre complètement capoté avec des images. Il n'y a pas de films qui peuvent rivaliser avec des affaires aussi impressionnantes et fantastiques que ce qu'on lit dans l'Apocalypse. Puis tu es en train de cheminer. Ma prière, c'est que ce livre-là va servir à te faire connaître Dieu. Puis plus particulièrement la personne de son Fils, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Parce qu'il y a des descriptions, comme dans Apocalypse 1, dans ce livre-là. Et il y a une compréhension de ce que Dieu veut t'offrir, de ce que Dieu veut pour toi, comme nulle part ailleurs dans la Bible. Alors, je vous encourage que vous puissiez être ici tous les dimanches ou que vous deviez vous absenter à suivre la série jusqu'à la fin. On va la terminer avant Noël, on va passer 10 semaines dans l'Apocalypse. D'accord? Vous pouvez aller les suivre en vidéo, on l'a mentionné tout à l'heure, sur le site web, en podcast. Aussi, je veux juste mentionner, on vous a envoyé avec la liste d'envoi 2 petites vidéos qui sont en anglais avec sous-titrage, tout ça, qui est très, très animé. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont pris le temps de regarder les vidéos? Vous avez des devoirs à faire. Ceux qui ne l'ont pas fait, allez vous abonner à la liste d'envoi, on va vous le renvoyer cette semaine, mais ça va vous aider énormément juste à comprendre un peu l'ensemble du livre, puis après ça, à recevoir de ce livre-là. Donc, en terminant, je veux vous encourager à prendre le temps de lire l'Apocalypse. Si vous ne lisez pas les livres lorsqu'on est dans les séries, corrigez ça, prenez le temps de lire les passages. Cette semaine, relisez Apocalypse 1. Arrivez ici avec des questions, arrivez ici avec des impressions, arrivez ici avec des émotions en relation avec le texte pour recevoir ce que Dieu veut vous donner. C'est bon? Alors, voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ce matin, on va voir ensemble que le Seigneur Jésus-Christ fait connaître à ses églises partout dans le monde, à travers tous les temps. Il fait connaître à ses églises de tout temps qu'elles n'ont rien à craindre, qu'il a vécu et qu'il règne, et que nous régnerons avec lui. Si vous voulez résumer l'exposé de ce matin, ça se résume à ça. Jésus-Christ fait connaître à ses églises de tous les temps qu'elles n'ont rien à craindre, parce qu'il a vécu, il règne, et nous régnerons avec lui. Amen? Nous régnerons avec lui. Révélation de ce qui doit arriver bientôt. Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Premièrement, c'est quoi une apocalypse? On entend Apocalypse en français, puis on se dit, c'est la fin des temps. C'est pas ça que ça veut dire, premièrement. Si vous êtes familier avec une Bible en anglais, comment est-ce que ça s'appelle en anglais, le livre de l'Apocalypse? Revelation. Révélation. Dans le fond, le nom du livre est inspiré du premier mot du livre. En grec, hein, à l'origine, c'était en grec, apocalypsis. Puis en français, parce qu'on aime en français des fois, tu sais, couper les cheveux en 4, des fois, hein? Ben, on a juste fait une translittération, apocalypsis, apocalypse. Des fois, le français aide énormément à comprendre. Souvent, je trouve que la Bible en français est plus claire que certaines Bibles en anglais. Dans d'autres cas, ben, c'est ça que ça donne. Fait que, apocalypsis, apocalypse, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est juste un mot grec qui veut dire révélation. Découvrir, montrer, faire connaître, c'est tout ce que ça veut dire, d'accord? Et donc, c'est quoi un apocalypse ou une apocalypse? C'est un genre littéraire qui était connu à l'époque. On en a d'autres apocalypses dans la Bible, dans le livre de Daniel. On trouve des sections qui sont écrites dans le même genre littéraire, avec des images très, très fortes. Mais ces images-là servent à faire connaître, servent à révéler. Donc, une apocalypse, c'est un genre qui nous aide à connaître ce qui doit se passer. C'est une révélation. Une révélation de ce qui s'en vient. Le premier verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Jésus-Christ a fait connaître ce que Dieu lui avait révélé premièrement et qu'il a fait connaître à ses serviteurs, les serviteurs de Christ, à travers un ange qui a donné cette révélation-là à l'apôtre Jean. On va revenir sur l'auteur la semaine prochaine, sur Jean lui-même, on va revenir sur les premiers lecteurs, d'accord? Mais voici ce que ça dit en somme. Maintenant, tantôt lorsque je disais que l'Apocalypse n'a pas été donné pour exciter notre imagination, mais exciter notre foi, hein, c'est que ce livre-là ne se présente pas lui-même. Vous savez, il y a un livre qui est sorti il y a une couple d'années qui s'appelait « Le secret ». C'est pas comme une patente mystérieuse, t'sais, comme si Jean était sur son île à Patmos, puis tout d'un coup, il est en prière, puis là, il y a eu comme 26 anges qui sont descendus, puis ont amené un livre qui s'est déposé devant lui, puis là, il était barré, puis il y avait des clés, puis ça prenait une énigme, puis il fallait étudier le cadenas pendant des siècles pour comprendre c'est quoi exactement la combinaison, puis faire des recherches à travers toutes sortes de choses sur la Terre pour pouvoir sortir des trésors mystérieux du livre de l'Apocalypse, puis il y a des gens qui découvrent ces trésors-là, puis là, ils excitent notre imagination avec ça. Vous comprenez, le premier verset nous a dit, si c'est ça que tu penses que c'est l'Apocalypse, c'est parce qu'il faut que tu recommences. Tu passes pas au verset 2, reste au verset 1. Il est là pour nous éclairer, il n'est pas là pour nous faire plonger dans des mystères extraordinaires. C'est pas ça que ça dit. Je comprends que les images sont excitantes, sont impressionnantes, sont troublantes par moments, je comprends ça. Mais ces choses-là sont là pour nous aider à comprendre. Pas pour nous faire plonger dans des mystères. On n'a pas le droit. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que c'est pas vraiment honnête. Je vous écris une lettre, OK? Je vous écris une lettre au nom d'Yannick Étier, tout ça. Puis là, vous commencez à la lire, puis je sais pas, c'est écrit, c'est une lettre que j'écris à ton nom, Martin, Paul, Jean-Louis, Pierre-Louis. Je t'écris une lettre, tu sais, puis tu commences à la lire. Tu n'as pas la liberté de lire ça en disant, je pense que Yannick est en train d'écrire une lettre à Esther, puis le mot Pirlouit qui est là, c'est pas vraiment ça qu'il veut dire, il voulait dire Esther qui était... C'est pas ça. Tu sais, quand tu lis le journal comme ici, premièrement, on doit interpréter les Écritures à partir des Écritures. Ce livre-là commence en nous disant, il vous est donné pour vous faire connaître, pour vous éclairer. C'est pas une chasse au trésor, l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse ne nous a pas été donné pour lire le journal à tous les jours, puis interpréter l'actualité internationale à tous les jours. Je suis pas sarcastique quand je dis ça. Je suis très sérieux. Le livre de l'Apocalypse ne nous a pas été donné pour interpréter l'actualité internationale à tous les jours. C'est un livre d'actualité pour toutes les églises, à travers tous les temps, pour exciter notre foi et persévérer dans la foi. On va voir ça au fur et à mesure qu'on va avancer à travers le livre. Le but du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas de nous mêler, de nous confondre en interprétations possibles, infinies. Le but du livre, c'est de nous éclairer, de nous encourager. Au verset 3, il dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Ça ne dit pas « confus celui qui lit ». Mêlés et divisés, les églises seront. C'est pas ça que ça dit. Ça dit heureux, c'est là pour votre bonheur. C'est une béatitude. Vous savez c'est quoi les béatitudes? C'est quand Jésus est sur la montagne puis qu'il prêche puis il dit heureux, heureux, heureux. Il y a des béatitudes dans l'Apocalypse, on va les voir ensemble. C'est là pour notre bonheur. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Bon, toute chose étant relative, dans la perspective de Dieu, le temps est proche. On comprend que hein, c'est relatif peut-être un peu. Le but principal, voici comment William Hendrickson le résume. Le but principal du livre de l'Apocalypse est d'apporter du réconfort aux chrétiens persécutés. On va le voir plus la semaine prochaine. Les premiers lecteurs de ce livre-là, ceux à qui ça a été lu la première fois, les églises à qui c'était adressé. Oui, son principal but est de réconforter l'Église militante, c'est-à-dire l'Église qui est en train de survivre dans sa lutte contre les forces du mal. Puis voici comment il résume le thème du livre, la victoire de Christ et de son Église sur Satan et ses alliés. J'ai pas le temps d'aller dans Satan, puis peut-être que tu n'es pas là, puis tu dis Satan. OK, je viens de décrocher. Mais avant de dire Satan, j'ai dit Dieu. Tu sais? Fait que si tu me suis avec Dieu, on pourra en discuter longtemps, mais tu peux me suivre aussi avec Satan. Ça va, on est dans un monde invisible. On n'ira pas là ce matin, je ne vais pas développer ça. On va avoir l'occasion de le faire pas mal, par exemple, à travers l'Apocalypse. D'accord? Le thème du livre, la victoire de Christ et de son Église sur Satan et ses alliés. Alors, c'est quoi le genre apocalyptique? C'est un genre à proprement dit, je l'ai dit, on en a ailleurs dans la Bible. C'est un genre c'est un genre littéraire qui est différent des proverbes qui sont des livres de sagesse ou qui est différent, mettons, des évangiles qui sont comme des récits historiques, mais peut-être pas exactement comme on écrit l'histoire, nous. Donc, il y a différents genres dans la Bible. C'est extrêmement dense, extrêmement riche. Le genre apocalyptique, c'est un genre littéraire qui est chargé d'images. Maintenant, on n'est pas dans n'importe quel apocalypse. On est dans l'apocalypse qui a été donné à l'apôtre Jean, qui est dans la Bible. Et donc, les images qu'on trouve dans ce livre-là viennent de la Bible. Beaucoup d'images viennent de l'Ancien Testament. Il y a tellement de références à des passages dans l'Ancien Testament que c'est tout simplement impossible de toutes les deviner. D'accord? C'est très, 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 très riche. On peut en trouver plein, mais c'est presque à l'infini de dire, OK, je pense qu'il y a encore une allusion ici, je pense qu'il y a une allusion ici, soit littéralement parce qu'il y a une citation de l'Ancien Testament, soit parce qu'il y a une image qui vient. Mais il y a aussi des images qui viennent des évangiles même dans l'Apocalypse. Chargé d'images qui viennent de la Bible, spécialement de l'Ancien Testament. Alors, ce matin, je veux faire quelque chose. Je veux vous donner quelques principes à garder en tête au fur et à mesure qu'on va avancer à travers le livre de l'Apocalypse. D'accord? C'est bon de garder ça en tête, peut-être pour pas décoller trop vite. Tu sais? Juste comme essayer de rester dans le livre lui-même. Gardez toujours à l'esprit le thème et le but du livre. C'est pas 20 livres différents avec 20 idées différentes. Quand Jésus-Christ a donné cette révélation-là à Jean, il lui faisait connaître une chose. Et donc, gardez toujours à l'esprit. Là, moi, je prétends que le but, c'est de nous encourager. Ce n'est pas d'expliquer toute l'actualité internationale, qu'est-ce qui se passe avec M. Poutine, tu sais, puis où est-ce qu'on s'en va. Je prétends ça. Ça sera à moi d'en faire la preuve avec vous, si vous voulez, d'accord? Mais gardez toujours à l'esprit le thème et le but du livre. Réaliser qui sont les premiers destinataires. Ce livre-là ne peut pas, je m'excuse l'anglicisme, faire du sens que pour nous aujourd'hui. Il devait premièrement être accessible. Si son but, c'est une révélation, il devait être compréhensible pour les premiers destinataires. On en parle la semaine prochaine. Ce livre a une unité. Il se tient d'un bout à l'autre. D'accord? Il ne part pas dans toutes les directions. Ça donne l'impression, c'est vrai. Ça donne l'impression que Jean a été en extase, puis qu'il a comme perdu la map un peu, puis peut-être qu'il a vécu des expériences assez étranges. Ce livre-là a une unité, on va le voir à travers le livre. Puis gardez à l'esprit que ce livre est saturé d'images bibliques qui étaient compréhensibles au premier lecteur. C'est important. Il est saturé d'images bibliques que les premiers lecteurs pouvait connaître. Donc, des images, c'est des références, des échos à d'autres passages de la Bible elle-même. Révélation de Dieu pour nous tous. Donc, c'est bon pour les premiers lecteurs, mais c'est bon pour nous aussi. Au verset 3, il dit « Heureux celui qui lit ». Donc, à l'époque, ce n'est pas tout le monde qui lisait. Il y avait un lecteur qui venait en avant. Ce n'est même pas tout le monde qui savait lire. Ce n'était pas tout le monde qui avait une copie. « Heureux celui qui lit ». Heureux celui qui lit à l'Assemblée, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Alors, c'est pour nous aujourd'hui aussi. Et Dieu nous annonce une béatitude, un bonheur à entendre puis à garder ce qu'il y a dans ce livre-là dans nos cœurs, de le garder en nous. Il y a un bonheur qui nous est annoncé là. Ce livre-là devrait vous apporter de l'encouragement, devrait vous apporter de l'espoir, pas de la confusion. Ce livre-là devrait exciter votre foi. L'étude qu'on va en faire devrait exciter votre foi. Dans les moments sombres où vous êtes découragé, puis vous dites, Je sais que ça se tient, la foi chrétienne, mais aujourd'hui, pour moi, ça résonne faux, ça ne marche pas. J'ai l'impression de perdre mes assises, j'ai l'impression d'avoir perdu pied dans ma foi. Ce livre-là est là pour te donner de l'espoir, pour t'encourager à persévérer. Et je vous donne juste un hint. Les premiers lecteurs, ceux qui ont reçu ce livre-là, vivaient dans des circonstances autrement plus difficiles que les nôtres. Puis je veux pas diminuer les épreuves que tu peux vivre dans ta foi. Je ne veux pas diminuer ce qui peut faire que des fois on perd pied dans la foi, puis on a l'impression que ça ne se tient plus, puis on dit, tu sais, j'imagine que vous faites des fois une prière comme ça, « Seigneur, j'espère que tu existes. » Vous savez ce que je veux dire? J'espère que c'est vrai tout ça, Seigneur. En tout cas, confession publique, d'accord? Vous pourrez me lapider à la sortie si vous voulez. Ça m'arrive de faire cette prière-là. Je suis pasteur, il faut que j'aille prêcher le dimanche suivant, puis je prie comme ça. Shame on me, hein? Ce livre-là est pour que tu dises, « Regarde, Seigneur, je te reviens, je vais juste aller lire l'Apocalypse, tu vas me parler par ton esprit, puis quand je vais revenir, ça va être de la louange qu'il va avoir sur mes lèvres. Ça va être de la foi, ça va être de l'espoir, ça va être de la joie. » Ce livre-là nous a été donné pour ça. Et je vous dirais que ce livre-là va nous pousser à l'adoration parce que Christ, le Messie, le Sauveur, il est dépeint comme nulle part ailleurs dans la Bible. Je veux dire, il faut que tu ailles dans Ésaïe 6. C'est pas loin, Ésaïe 6. On vient de faire une petite série dans Ésaïe cet été. Il faut que tu ailles dans Ésaïe 6 pour avoir comme un... Hein? Jean nous a dit qu'Ésaïe a vu Jésus-Christ dans Ésaïe 6. Wow, on retrouve des échos comme celui-là. Ce livre-là nous est donné pour nous pousser à l'adoration, particulièrement dans la révélation de la personne de Jésus-Christ. Alors, cette personne-là est dépeinte de manière incroyable dans le premier chapitre. Encore une fois, chapitre 1, verset 1, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » L'Apocalypse n'a pas pour sujet principal Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous allez suivre la nuance, mais elle est quand même importante. Le sujet principal de l'Apocalypse, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est la persévérance dans la foi jusqu'au retour de Christ. D'accord? Donc, Jésus a fait connaître à ses serviteurs ce qui doit venir pour nous encourager. C'est ça le sujet principal. Mais, quand même, on pourrait quasiment dire révélation de la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est dépeint d'une manière absolument extraordinaire. Puis à quelque part, notre encouragement, notre force, notre foi qui est affermie à travers ce livre-là, vient du fait qu'on réalise qui il est, où est-ce qu'il est, quelle est sa puissance, comment va se passer son retour. Et donc la personne de Christ est tout de même là au cœur de ce livre-là et on commence avec lui ce matin. Quelle ouverture magistral. Tantôt, je parlais des images pour l'Apocalypse. J'aimerais ça qu'on puisse... J'ai fait une petite recherche sur Jésus-Christ, puis j'ai dit, quelle sorte d'image qu'on a pour nous parler de Jésus? Ça, c'est le genre d'image dans les premières. Okay? J'ai essayé de ne pas être sélectif. Là. On va juste vous en montrer quelques-unes. Jésus. Jamais dans les premières images, tu trouves quelque chose qui ressemble à Apocalypse 1. Spécial, hein? Quand on pense à Jésus, on pense à... Pas de moustache qui tourne, je sais, mais quand même. Ou encore un martyr. Ce qui est tout vrai. Mais lorsque j'arrive dans Apocalypse 1, mes amis, tu finis Apocalypse 1 puis tu ne te poses pas la question dans quel camp je veux être, tu sais. Tu n'es pas comme, je veux-tu être avec lui ou contre lui? À moins que tu sois vraiment, vraiment suicidaire, là. Vraiment masochiste, là. T'as comme pas le goût de dire « je vais être contre lui ». Parce qu'il n'est pas dépeint comme ça. Il est terrible, il est majestueux, il est grand, il est extraordinaire. Quelle ouverture sur la personne de Christ. Puis avant de regarder un peu la description qui est faite de Jésus-Christ, je veux juste préciser... D'accord? Pour ceux qui sont en train de cheminer, C'est très clair dans ce passage-là qu'il est question de Jésus de Nazareth. D'accord? C'est très clair dans le passage qu'il est question d'un homme qui a vécu il y a de cela maintenant 2000 ans. À l'époque, c'était plus récent, d'accord? Qui a vécu en Israël, puis qui est mort crucifié. Regardez qu'est-ce qui est écrit au verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, il est question d'un personnage historique, un être humain qui a vécu, qui a été percé. Il n'y a pas d'autre prophète dans aucune religion dont le récit, c'est ça, d'accord? Et c'est pas comme une espèce de Jésus universel dans qui tout le monde pourrait croire, puis tu sais, c'est pas comme... Parce que finalement, quand tu jases avec les gens, souvent, ils vont dire « Ouais, mais ça revient tout au même. Dans le fond, il y a un Dieu. Ouais, mais il y en a un qui a été percé. Il y a un Dieu, c'est vrai, mais il y en a un qui a été percé. Et c'est celui-là qui est puissant, qui est majestueux, qui est glorieux, qui est vivant aujourd'hui et au siècle des siècles. C'est ce Jésus de Nazareth qui a vécu parmi les hommes. Ça demande la foi, là. Ça demande la foi. Mais quand Dieu t'accorde cette grâce-là d'avoir la foi... Heureux. Alors, c'est ce Jésus de Nazareth, ce personnage historique qui a vécu, qui règne maintenant dans toute sa majesté. Il a été percé. Il était mort. Maintenant, il est vivant, au siècle des siècles. C'est ce Jésus-là qui va être là pour l'éternité, dans toute sa majesté, dans toute sa gloire. Il n'est pas demeuré sur la croix. Je vous lis un long extrait à partir du verset 12, mais c'est parce que c'est tellement extraordinaire. C'est tellement merveilleux, c'est tellement beau. Tu lis ça, puis tu t'arrêtes là, puis tu commences à louer Dieu. Tu cherches des images dans la nature pour imaginer quelque chose d'aussi grand, d'aussi merveilleux que Christ, puis tu n'en trouves pas. Il faut comme que tu mettes tout ensemble, tu prends toute la beauté du monde au complet, puis là tu dis, « OK, peut-être que je suis rendu à peu près à sa cheville. » Tu sais, comme image de Christ. Jean dit au verset 12, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » On aura l'occasion de revenir sur ça. « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Évidemment, c'est Jésus de Nazareth. « Un fils d'homme. » « Vêtu d'une longue robe. » Et ayant une ceinture blanche, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » C'est comme un plastron immense, là, vous comprenez? C'est pas comme juste son buckle belt, là. C'est comme une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. C'est pas le petit Jésus avec les petites boucles dorées. Non, t'es ailleurs. Tu sens déjà que t'es devant un être qui dépasse ce qu'on arrive à concevoir vraiment. Ses yeux était comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Ésaïe 6, lorsqu'on a parlé des séraphins, puis je vous avais dit, le sens du mot séraphin, dans le fond, c'est ceux qui se consument. C'est pour ça que certaines personnes qui ont essayé d'imaginer à quoi ressemblaient les séraphins, ils les dépeignent comme une espèce de flamme de feu ou de dragon en feu ou quelque chose comme ça. Mais lui, c'est comme s'il avait été forgé dans une fournaise quand tu le vois apparaître. Il y a quelque chose de tellement intense. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Tu sais, lorsque tu vas au bord de la mer, là, puis qu'il y a la marée, tu fais juste écouter la mer, ben c'est pas ça. C'est comme si tu étais sur le bord d'un tsunami. C'est comme si tu étais sur le bord d'un tsunami. C'est encore de l'eau. C'est encore de l'eau. Mais c'est pas le petit Jésus. Tu es sur le bord d'un tsunami. Quand il ouvre la bouche, tu cherches où est-ce que tu peux aller te cacher. Tu cherches où est-ce que tu peux aller te terrer. Parce que c'est terrible. C'est terrible. Un bruit de grandes eaux. Un bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. C'était pas pour beurrer tes toasts. Comprenez? C'est pas un petit couteau à beurre, là. Il est terrible. Il est terrible. Il est terrible. Une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Voilà qui est Jésus-Christ. Amen. Voilà qui est Jésus-Christ. J'ai beaucoup de respect pour mes amis qui croient dans des prophètes, dans d'autres religions. J'aime dialoguer avec eux. Mais je ne peux pas, en mon âme et conscience, quand je lis ça, leur dire « oui, tu as raison, tu sais, dans le fond, chacun son chemin, chacun son prophète. » Ça revient tout au même. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que ça, c'est Jésus de Nazareth qui m'a été décrit ici, qui a été percé, qui s'est humilié, qui était mort, qui est maintenant vivant, et qui règne dans toute sa majesté, dans toute sa gloire. Au verset 5, on lit « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. » Cette semaine, quand vous allez lire l'actualité, puis vous allez dire « Boy, où on s'en va? » Fermez vos écrans, là, puis allez adorer le prince des rois de la terre. Ce matin, je passais en revue ceux qui sont les plus intimidants, ceux qui ont le plus de pouvoir. Le président du Parti communiste chinois qui est en train de diriger la Chine actuellement. Assez terrifiant, le monsieur. Il a pris le pouvoir, a fait une purge, si j'ai bien compris, 20% de la direction du Parti communiste chinois est comme disparu quand il a pris le pouvoir. Assez terrifiant. Ce matin, je me suis arrêté et j'ai dit « Pis ça. » Il ne dirige pas la terre. Moi, je connais celui qui est au-dessus des rois de la terre, à travers tous les siècles, à travers tous les temps. Oui, gloire à Dieu. On lit dans Matthieu 28, verset 18. Jésus s'en vient s'adresser à ses disciples, puis c'est avant son ascension, d'accord? Donc, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il apparaît, puis on a déjà comme une certaine compréhension de sa gloire, de sa majesté, mais en même temps, pas comme on le voit ici dans Apocalypse 1, mais Jésus dit ceci dans Matthieu 28, verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Mais quand tu lis Apocalypse 1, tu comprends. Tu comprends qu'il y a vraiment tout pouvoir, puis qu'il est vraiment terrifiant, puis qu'on lui doit vraiment respect. Ensuite, il nous est dit qu'il revient au verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » C'est comme si au retour de Christ, le temps va s'arrêter et les êtres humains de tous les temps, de toutes les époques, vont être présents en un même moment. Toutes choses vont se consumer et même ceux qui ont percé Christ vont le voir. Maintenant, on est 2000 ans plus tard, ça fait quand même un bout qui a été percé. Même ceux qui l'ont percé vont le voir, mais il revient, il s'en vient. Terrible comme il a été dépeint ici. Et je veux terminer avec ceci ce matin, d'accord? Parce que comprendre l'Apocalypse, ça demande de comprendre comme la grandeur de Christ, toute sa puissance, et comprendre son amour. J'ai dit tantôt, le thème principal, c'est la victoire de Christ pour son Église, contre ses adversaires. Et donc, souvent dans l'Apocalypse, ce qu'on voit, c'est le contre ses adversaires. On voit comment il est terrible, comment il est terrifiant, comment il est menaçant. Mais tout le long, à travers tout le livre, il y a toujours ceux qu'il aime, ceux dont il prend soin. Versets 5 et 6, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Celui qui nous aime, c'est celui qui est terrible, qui est terrifiant. C'est celui qui était mort, qui est ressuscité. C'est celui qui règne pour l'éternité. Celui-là nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés. Puis il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Si tu as cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ considère tes épreuves dans la vie, tes difficultés, tes luttes, tes combats. Puis considérant tout ce que les chrétiens allaient vivre à travers tous les siècles, il s'est dit, ils n'auront pas facile à tous les jours. Ils vont devoir marcher par la foi, il va y avoir des moments de découragement, il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments où tu vas dire, mais la vie ne fait plus de sens. Ils ont besoin de savoir que je suis là et que je règne. Ils ont besoin de savoir que je reviens bientôt. Ils ont besoin de savoir que j'ai vaincu et que je veille sur eux. Et donc, si un jour dans ta vie, tu as placé ta foi personnelle en Jésus-Christ, si un jour dans ta vie, tu as dit, « OK, ce n'est pas seulement la foi de mes parents, ce n'est pas seulement une foi nominale, les Québécois sont chrétiens. » Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Si un jour dans ton cœur, tu as choisi Christ en réalisant qu'il t'avait choisi. Tu as entendu son appel et tu as dit, « oui, Seigneur, je veux te suivre. C'est pas vrai que je veux me tenir contre toi. Je vais plier le genou puis je vais me ranger derrière toi parce que tu es trop merveilleux. » Si c'est le cas, Jésus-Christ t'a écrit cette lettre-là pour toi personnellement et pour toutes ces églises à travers tous les siècles, pour fortifier ta foi, pour t'encourager dans les moments difficiles, pour te bénir. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Si tu n'as pas fait ce choix-là, si tu n'as pas pris cette décision-là, c'est tellement personnel comme choix. C'est tellement une décision qui te revient. On respecte ça. On a le privilège, Esther et moi, d'avoir deux enfants. On a toujours répété à nos enfants, ça va être votre choix, c'est votre décision, c'est vous devant Dieu. Puis on jase avec eux de ces choses-là parce que ça se passe entre toi et Dieu. Mais si tu es ici ce matin, probablement que tu crois en Dieu à quelque part. Moi, je crois que Dieu ne fait rien pour rien. Puis si tu es ici ce matin avec nous, alors qu'on commence le livre de l'Apocalypse, c'est probablement parce que Dieu veut te faire connaître Jésus-Christ. Il veut t'inviter à te ranger dans son camp, à venir te mettre à l'abri derrière Christ, qui veut fortifier ta foi en lui. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on commence ce livre tout simplement extraordinaire, Seigneur, qui a édifié les chrétiens, qui a fortifié la foi des chrétiens depuis des siècles et des siècles, Seigneur. Ce livre qui nous annonce ce qui vient bientôt, ce livre qui ranime notre foi, ce livre qui nous donne envie de persévérer jusqu'à la fin, ce livre qui nous aide à rêver de ta présence, de ta gloire pour l'éternité. Ce livre qui te dépeint toi, Seigneur Jésus. Majestueux, merveilleux, fantastique, tout puissant, extraordinaire et aimant. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Seigneur, humblement, on vient devant toi ce matin pour t'adorer, te célébrer, caché dans ta grâce, Seigneur, à l'abri de ce pardon que tu nous as acquis au prix de ton sang, Seigneur. En étant percé, en étant pendu au bois pour nous, tu nous as acquis cette grâce d'être pardonné, d'être fait sacrificateur à notre tour, serviteur de Dieu à notre tour, enfant de Dieu, Seigneur. Viens, Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Reçois nos louanges ce matin. En Jésus qu'on te prie. Amen.